Même chose à Châteauroux, ça a déjà été le cas également à Cambrai, à Melun. C'est la préfecture qui a agi face à la multiplication des nuisances sonores ou des bagarres et des regroupements de personnes alcoolisées en soirée et durant les épiceries de la commune, les épiceries qui ouvrent jusqu'à 1h du matin et qui vendent de l'alcool à emporter. Eh bien, la préfecture a tout bonnement décidé de leur faire baisser le rideau. Fermeture obligatoire de ces épiceries dès 22h et jusqu'à 7h du matin, dès lors qu'elles sont détentrices d'une licence de vente d'alcool à emporter. Aux grandes dames, évidemment, des commerçants qui étaient concernés.
Alors, interdire l'alcool fort en centre-ville, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Judith Adrien?
C'est vraiment l'idée à la con, hein. Vraiment encore une magnifique idée de gauche pour, encore une fois, venir punir l'honnête citoyen prendre une mesure.
Qui est l'honnête citoyen?
Bah celui qui rentre du travail et qui a envie de s'acheter une petite bouteille en rentrant, voilà.
Et qui s'achète une 8-6.
Moi, je vais vous dire quelque chose. Une 8-6, pourquoi une 8-6?
Faut doser.
Non, faut pas doser. Moi, je suis la première concernée par ces idées. Je suis la première concernée par ces idées à la con de gauche, puisque j'habite dans le 10e arrondissement et que ça fait un an et demi.
À Gare du Nord.
Un an et demi vers Gare du Nord que je ne peux plus acheter d'alcool à emporter dans le supermarché en rentrant du travail à partir de 17h. D'accord? C'est insupportable. Pourquoi? Parce qu'il y a des Trenlock et des punks à chiens qui campent devant les monoprix et qui se bourrent la gueule toute la journée. Et du coup, c'est à moi qu'on va dire qu'à partir de 17h, si je veux me ramener ma petite bouteille de rouge après une longue journée harassante de travail, et ben, ce que je peux pas parce que ils sont en train de se bourrer la gueule. Et en plus, évidemment, ça ne change rien parce que eux, contrairement à moi, et ils n'ont pas de métier, donc ils peuvent aller acheter de l'alcool toute la journée. Et moi, le seul moment où je peux, c'est justement rentrer du travail à 19h. Donc c'est insupportable. Ce n'est pas à nous de payer le prix des politiques laxistes des villes qui ne font rien pour enlever ces gens de la rue qui nous pourrissent la vie. C'est insupportable.
Mais attendez, excusez-moi Juliette. Alors,
j'ai envie de m'acheter une bouteille de Grand Marnier, très bien, on parle d'accord fort. Si j'ai envie de m'acheter une bouteille de Grand Marnier pour flamber mes crêpes Suzette. J'ai le droit. C'est liberticide, c'est insupportable.
Pardon Juliette, mais alors je vais resituer le débat.
Ça fait un an et demi que ça dure, je te jure que
mais t'es en manque là, non?
Non, mais je suis pas en manque. Je trouve ça tout simplement insupportable. Et en plus, ils n'ont jamais rien fait pour compenser ces pauvres commerçants qui ne vendent plus l'alcool à partir de 17h depuis un an et demi. Qui va aller compenser leur manque à gagner?
Oui, avec du Grand Marnier à 18h. Mais bon, non, mais Juliette, après, on va resituer le débat. Dans la ville de Nancy, on parle de bière forte. Et pourquoi je dis 8-6? Parce que typiquement, le symbole de la bière forte, c'est la 8-6. Et je suis désolée, c'est vrai que, sans leur faire offense, c'est plutôt des marginaux qui achètent de la 8-6 plutôt que des cadres supérieurs. Et effectivement, quand vous voyez des gens alcoolisés dans la rue avec de la 8-6 à 23h, bon, c'est pas non plus des étudiants.
Ils iront autre part. C'est simplement décaler le problème d'un endroit A à un endroit B. Ils iront faire chier le monde ailleurs. Bon. Donc c'est ridicule. Pardon, mais pardon pour la vulgarité, mais c'est vraiment insupportable. À chaque fois que quelque chose va mal dans ce pays, on se rue sur les solutions les plus liberticides au détriment de l'honnête citoyen qui travaille.
Mais bien sûr, acheter une bière forte, c'est pas très grave.
Vous
irez l'acheter le matin avant d'aller au boulot.
Comment vous allez compenser après les supermarchés qui peuvent plus boire, qui peuvent plus vendre leur bière, parce que c'est insupportable.
Alors, si vous voulez, je vais pas aller pleurer sur les supermarchés, sur les supérettes peut-être, mais certainement pas sur
les supérettes. Bon,
Fred Hermel.
Alors moi j'ai connu ça quand je vivais à Madrid, et c'était une municipalité de droite. À Madrid, on ne vend plus d'alcool à emporter de 22h à 8h du matin.
Ah bon? Et ça change quelque chose?
C'était pour lutter contre l'alcoolisme des jeunes.
D'accord. Mais est-ce que ça change quelque chose?
Bah oui, ça quand même, oui, bien sûr. Oui,
ça change quoi?
C'est que
moi, je suis allé à Grenade, je peux dire qu'il y a du bruit après minuit.
Il y a ce qu'on appelle le botellon, ou les... c'est une façon de consommer dans la rue, etc. Mais il y avait un vrai, vrai problème d'alcoolisme de gens très jeunes. Et il faut voir que 22h à Madrid, c'est dans la vie quotidienne 20h ici.
Ouais,
c'est tôt. Donc, oui, c'est quelque chose. Après, sincèrement, tu le sais, tu vas acheter avant ta bouteille de vin quand t'es invité, etc. Tu sais, et c'était surtout les petites supérettes ou les petites épiceries qui sont à Madrid tenues majoritairement par des Chinois. Donc moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'on oblige la fermeture de ce genre de magasins qui sont très utiles quand t'as besoin d'aller chercher un truc à manger, mais qu'on simplement arrivé 22h. Les alcools étaient dans un endroit bien précis. Ils mettaient des panneaux, des trucs comme ça.
Comme pendant le Covid.
Des bâches, etc. Et c'était tout. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est obliger à la fermeture de ce genre de magasin tôt, parce qu'ils vendent de l'alcool. Non, interdire l'alcool, mais pas interdire les magasins.
Mais quand vous allez au supermarché le dimanche matin, il y a aussi parfois une interdiction, à Monoprix notamment, et aussi parfois l'interdiction d'acheter de l'alcool. Bon, bah, dans ces cas-là, si tu le sais en avance, et si tu as un dîner par exemple, ton alcool et que tu veux offrir une bouteille de vin, tu vas l'acheter la veille ou le matin. Mais encore une fois, là, il s'agit d'alcool fort, on ne parle pas de ton Pétrus que tu vas rapporter à ton voisin.
C'est pas vendu en supermarché.
Là, ils sont dans l'alcool fort. Pour le moment, mais quand les punkachiens se rueront sur le vin et sur les bières moins fortes, ils interdiront tout.
Mais on n'y est pas, très bien. Encore,
moi, dans mon quartier, c'est tout. Dans le 10e, il n'y a aucun alcool.
Juliette,
zéro.
Pour vraiment recentrer le débat, parce que sur certains points, effectivement, je dis au conditionnel, avec beaucoup de conditionnels, te rejoindre. Là, c'est dans la ville de Nancy, contre les marginaux, sur les bières fortes, les 8-8 ou autres. Moi, j'ai l'impression, avec ce genre de propositions et ce genre de discours, que ça rejoint le même débat qu'on a pu avoir lors des Jeux Olympiques avec les SDF qui étaient parqués dans les bus et renvoyés en province. On décalait le problème, on le mettait sur le tapis, on le déplaçait.
Ils sont revenus,
mais en tout cas, on ne solutionnait pas le problème. En disant, on a des SDF, on a des marginaux, on a des migrants, on ne veut pas les voir pendant les Jeux Olympiques, on va les déplacer à Orléans, à Bordeaux et ailleurs. On les remplissait, on les mettait dans des cars et très tôt le matin, ils partaient. Finalement, c'est pareil ce que fait Nancy. C'est ayant conscience de ce problème, si on peut appeler ça un problème, de marginaux.
Mais l'alcoolisme est un problème.
Non, mais avec ces marginaux qui vont spécifiquement prendre de la bière forte, plutôt que se dire il faut lutter contre ce problème, solutionner, faire en sorte de faire la prévention, mettre en place des solutions de lutte contre cette précarisation, cette précarité, cette lutte contre le SDF et la marginalisation. On va arrêter de vendre de l'alcool. Je trouve qu'effectivement, c'est une petite solution. Alors, j'irai pas jusqu'à dire.
Mais comme ça, ils boiront moins aussi. C'est aussi de la prévention.
Si la municipalité avait vraiment dit, OK, on a conscience de l'existence de ces marginaux, on va mettre en place des centres de soins, des centres d'accueil, on va les accueillir, on va les soigner, on va les faire sortir de l'alcoolisme.
Mais ça, les communes peuvent pas le faire.
Sortir de la précarité.
Ça, les communes peuvent pas le faire seul. Moi, enfin, pour le coup,
Rémi Barré, comme tu es de Cambrai, Cambrai a mis en place cette
Le cas existait. Pendant quelques mois, la vente d'alcool a été interdite à partir de 21h et jusqu'au matin. Parce que les personnes qui étaient visées, comme à Nancy, comme ailleurs, c'était ceux dont on parle, les marginaux, mais c'est pas péjoratif encore une fois, c'est les sans-abri, c'est des personnes en errance ou en déshérence, comme on veut. Et le problème de la mairie, c'est ce qu'a dit la mairie, c'est qu'un, la police qui était sollicitée aussi, parce que qui se plaint de ce phénomène, c'est les riverains. C'est les riverains de ces épiceries, de ces supérettes, qui toute la journée sont confrontés à ces personnes qui sont parfois alcoolisées. Il y a parfois des bagarres, et elles sont parfois véhémentes. Il y a parfois des cris du sens sonore. Donc les mairies sont interpellées par ces riverains. Elles alertent la police, mais la police
Elle a autre chose à faire.
C'était le cas. Verbalise de temps en autre parce que la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique.
Donc, ils sont pas solvables.
Non, mais le problème, c'est que la police ne peut pas passer la journée. Donc, ils vident les canettes, mais ils peuvent pas passer la journée à faire ça.
Non.
Et la mairie donc prend cet arrêté pour essayer de répondre au problème des riverains et dit nous, on peut pas faire ce que ne font pas les services sociaux.
D'accord.
Et les services sociaux, c'est pas que la mairie, c'est aussi l'État.
Alors, on est avec Hervé Martini, c'est notre invité sur ce débat. Il est médecin addictologue, secrétaire général d'Addiction France. Bonjour Hervé Martini.
Bonjour.
Mais oui, mais c'est un débat intéressant et justement, on se demandait, vous, en tant que médecin addictologue, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne mesure ou pas? On peut comprendre effectivement les riverains et les commerçants qui sont gênés par des marginaux qui seraient alcoolisés, mais est-ce que vous, en tant qu'addictologue, vous dites que ça peut être finalement mieux qu'une campagne de prévention?
Alors, si c'est que d'interdire et de stigmatiser une partie de la population, non. On est bien d'accord. Cette action n'a pas pour but de viser uniquement et entre guillemets que les marginaux. Les consommations, c'est le fait aussi d'étudiants. Donc, c'est une ville fortement étudiante qui peuvent effectivement consommer de l'alcool ou s'alcooliser avant d'aller en boîte de nuit, donc de consommer dans ses échauffats et prendre de l'alcool. La question, elle est globale. Alors, le dispositif de Nancy, pour finalement discuter ensemble, c'est un dispositif qui est complet. C'est avec des associations sur le terrain qui propose un accompagnement, c'est de la réduction des risques et des dommages, c'est complètement intégré. C'est que la personne finalement qui est en difficulté avec le produit, qui est en errance, elle est accompagnée dans le dispositif. Mathieu Klein, qui est le maire de Nancy, a un travail de partenariat avec les associations, les services de soins, les XAPA, les dispositifs d'accueil. C'est un travail collégial, c'est pas du tout uniquement l'aspect police, sécurité publique qui a été mis en avant. On est vraiment sur un dispositif global de prévention, d'accompagnement des personnes qui seraient retrouvées sur la voie publique alcoolisée ou qui s'alcooliseraient en prenant de l'alcool. Je rappelle, les bières fortes, c'est l'alcoolisation majeure à bas prix. C'est du bas prix. C'est 4 unités standards à un prix défiant toute concurrence. Le combat, il est aussi là, sur augmenter le prix des consommations et de gérer ça. Voilà un peu pour recentrer un peu et pas stigmatiser. Je voudrais pas qu'on dise, c'est encore en direction des plus pauvres. Nos associations, elles sont là pour justement les aider à sortir de ça et les réinsérer. Je suis totalement d'accord sur ce qui était dit auparavant sur la réinsertion.
Mais après, Hervé Martini, alors je ne suis pas dans cette situation, mais on peut imaginer qu'effectivement, ces marginaux, s'ils savent que l'alcool fort est interdit à partir de 20h, a priori, ils ne vont pas au bureau, hein, donc ils peuvent aller faire le plein à 19h, vous voyez ?
Oui, mais l'idée, c'est pareil, c'est un élément qui a été mis parce qu'effectivement, sur la voie publique, il y a un trouble à l'ordre public, il y a des consommations d'alcool fort à vue d'ivresse. C'est pas le fait que des marginaux, hein. Je crois qu'il faut sortir de ce débat-là, hein. On retrouve des personnes qui sont des personnes insérées, étudiantes, qui vont trouver de l'alcool et chercher de l'alcool le soir, notamment fort, parce qu'il y a une soirée, etc., et qui veulent s'alcooliser massivement, hein, très clairement.
Après, c'est vrai qu'encore une fois, la 8-6, et puis on dit toujours la 8-6, mais c'est vrai qu'il y a d'autres marques de bière. C'est quand même. Ah, oui, exactement. On voit plutôt des marginaux avec ça que des étudiants, quoi.
Bah, oui, c'est vrai, mais c'est pareil, on voit pas. C'est une alcoolisation qui est visible. On ne voit pas l'alcoolisation invisible des personnes qui vont effectivement consommer 2-3 bouteilles de vin et qui vont aller chercher dans la super et 2-3 bouteilles de vin, se poser dans un coin et consommer. On a encore, nous, c'est vraiment un travail sur les représentations aussi, sur ces personnes qui sont en grande fragilité. L'arrêt, il est là vraiment pour ouvrir la discussion, ouvrir le dialogue, en accord avec les partenaires, les assurances sociales, les structures d'accueil et les structures addictologiques. Mais c'est amené aussi une réflexion globale sur l'alcoolisation sur le lieu public et c'est la vente d'alcool sur le lieu public.
Bah alors justement, Hervé Martini, je pose une question, allons plus loin. Est-ce qu'il faudrait, partout en France, finalement, interdire la vente d'alcool dans les supermarchés à partir de 20h ?
Je ne suis pas pour l'interdiction. Je pense que l'interdiction, la prohibition, ce n'est pas une bonne solution. Je suis pour la réglementation et essayer de cadrer au maximum et de la réduction des risques et des dommages. Interdire, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, avoir des personnes qui vont acheter à 19h et qui vont s'alcooliser de 20h à 22h. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de dire, voilà, il y a une situation à risque ici, on voit bien qu'il y a une consommation très importante de produits, on va diminuer les risques. Peut-être taper sur les alcools effectivement forts, le degré d'alcool, s'il boit un peu moins, s'il veut boire un peu fort, c'est un bon truc. L'interdiction, ça ne marche pas. Réglementer sur des certaines périodes, c'est bien. On l'a bien vu aussi, les débordements, quand il y avait des matchs de sport, puis les buvettes sont ouvertes, il y a des risques de violence. Donc là, il faut aussi réglementer et diminuer, en fin de compte, la pression des alcooliers par rapport à la consommation. Ça, c'est efficace.
Eh ben merci beaucoup en tout cas Hervé Martini pour toutes ces explications. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va prendre Laurent tout de suite en ligne. Laurent, il nous appelle de Saintes et il est fleuriste. Bonjour Laurent.
Bonjour Estelle, bonjour à tout le monde. Et une petite dédicace à Juliette. Alors, je la détestais dans une autre émission.
Très bien.
Et j'ai appris depuis qu'elle est chez vous, j'ai appris à beaucoup l'apprécier.
Énormément plaisir.
Elle s'est bonifiée comme
le pétruche. Et surtout à monsieur Hermel, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, un livre de 2021, C'est ça la France. Vous êtes une très bonne personne, monsieur.
Eh ben ça va lui faire plaisir. Laurent, revenons à nos moutons, à l'alcool. Voilà. Donc Laurent, vous êtes fleuriste. Est-ce que vous êtes parfois dérangé, on va dire, par des personnes alcoolisées sur la voie publique ?
Bah oui, surtout le matin quand vous ouvrez votre boutique et vous avez, il y a des gens qui ont uriné, même voir faire déféquer aussi sur la vitrine et que la police on l'appelle, la police elle n'a pas que ça à faire et puis c'est quand même une petite ville par rapport à Paris ou à Bordeaux. Mais c'est vrai que c'est chiant, même en pleine journée, l'été, surtout quand il fait chaud, c'est des 8-6, c'est des 9-4 même et puis ça pisse sur la, sont complètement défoncés, excusez-moi du terme. Vous êtes obligé de nettoyer derrière et c'est pas agréable non plus.
Mais ça veut dire en fait ce que vous dites Laurent, c'est que ces personnes-là, vous les voyez vous voyez les dégâts le matin, vous les voyez en journée. Donc...
Non, c'est l'été, c'est en plein après-midi, hein, même le matin, on les voit arriver, on voit les chiens arriver, on a compris. Hein.
Oui, mais ça veut dire qu'en fait l'interdiction de la vente d'alcool à partir de 20h, mais en fait ça changera rien, puisque vous c'est en plein après-midi qui vous dérange.
Bah ouais, mais nous on a fait une pétition à la mairie de Saintes pour que ça soit aussi l'après-midi.
Ah ouais, ah d'accord, pour interdire donc la vente d'alcool en fait dans les supermarchés quoi.
Il y a un supermarché, mais moi ce que je veux dire, c'est que c'est arrivé en plein après-midi, c'est arrivé le soir quand on faisait les fêtes avec les commerçants du quartier, c'est arrivé qu'ils viennent à 21h, puis c'est devant tout le monde, hein, ils sont complètement, et devant tout le monde, ça y va, et c'est l'été, c'est surtout l'été.
Mais ça changera rien. Ça, je suis vraiment désolée, Laurent, mais je vous promets que ça ne changera rien parce que, vous savez, l'alcoolisme, vraiment, quand on a envie de boire, quand on est malade, quand on est alcoolique, on trouve de quoi boire. Bah, et c'est pas parce que forcément, oui, c'est pratique pour eux d'aller chercher dans les supérettes du centre-ville. Même. Mais si ils ne peuvent plus lâcher dans les supérettes du centre-ville, ils iront l'acheter ailleurs et ils viendront quand même boire en centre-ville parce que c'est là qu'ils peuvent faire l'aumône éventuellement. C'est là qu'il se passe tout ce qui se passe et qu'ils vont pas rester en banlieue, si vous voulez, ou en périphérie pour boire leur alcool.
On consomme donc, plutôt là, on achète. Ces gens-là consomment.
Pas forcément. En tout cas, moi, je peux vous.
Je peux pas aller faire 3 kilomètres.
En tout cas, moi, je peux vous dire que dans le 10e, ça n'a absolument rien changé. Il y a de la piste de partout, avant 17h, après 17h. Et que la semaine dernière, avec mon compagnon, on s'est fait agresser justement pour de l'alcool par des marginaux. Oui, tout à fait, en rentrant juste devant chez moi. Il avait une bouteille de digestif dans les mains. Il s'est fait arracher par
derrière.
Non, c'était pas du Grand Marnier, c'était la sienne. C'était pas du Grand Marnier. Mais il s'est fait arracher par derrière dans la main. Donc bon, vous voyez bien que super quoi, au niveau de la sécurité, on est ravis, tout se passe très bien, la mesure marche à merveille. Voilà, tout ça c'est totalement inefficace. Et ces gens-là, il faut les enlever de la rue d'une certaine manière.
Bah, moi, faut les soigner en fait.
Voilà, il faut les soigner, c'est comme quand on avait déplacé la colline du crack. Qu'est-ce que ça avait changé?
On l'a juste déplacé. Malheureusement, oui, la prohibition, ça va pas fonctionner. D'ailleurs, on l'a vu dans l'histoire. Interdire l'alcool, on va développer le trafic, on va décaler, reporter, déplacer le problème. Mais les gens continueront à avoir une forme d'addiction. Si vraiment on veut lutter contre cette forme d'addiction et ses conséquences sociales, il faut faire de la prévention, il faut soigner.
Après, il faut aussi écouter des auditeurs comme Laurent. Laurent, il est fleuriste et le salut pourrit la vie. Quand tu vends fleurs, c'est quand même festif. Et que t'as devant ton magasin des marginaux avec des chiens qui sont alcoolisés. En vrai, tu te dis, tiens, je vais aller chez le fleuriste qui est à 200 mètres.
On se rend pas compte. Et même, parce qu'encore une fois, pour te parler de l'exemple que je connais, moi, j'ai discuté avec un boucher charcutier à Cambrai qui est un endroit où se rassemblaient pendant un temps ces marginaux qui étaient alcoolisés. Il m'a dit que lui, il y avait plusieurs clientes d'un certain âge, des personnes âgées, qui l'avaient appelé en lui disant « On est désolé, mais on viendra plus. »
Ils ont peur.
Parce qu'elles ont peur, tout simplement. Et ces marginaux ne sont pas forcément violents, mais juste, voilà.
Le manque rend agressif.
Bah oui.
Merci en tout cas, Laurent, d'avoir été avec nous. Frédéric nous appelle de Nice. Bonjour Frédéric.
Bonjour à toutes.
Bonjour. Et Frédéric, vous vouliez nous parler de l'exemple de votre ville, justement.
Ouais, mais alors j'ai plus grand chose à dire parce que vous avez tout dit. Vous êtes autour de ce plateau. Non, la seule chose que je voudrais dire, c'est que vous focalisez beaucoup sur donc les gens, les SDF et ainsi de suite. Mais moi, je vois sur Nice, que ça soit la journée, pas spécialement que le soir, mais c'est aussi des gens qui vont au boulot ou qui sont sur la pause de midi et qui sont avec leur petite palette, leur petit sac. Et qui retournent au boulot, qui vont à un rendez-vous et qui ont facilement une mutis à la main ou d'autres plus élevées parce que les moins chères, elles sont plutôt aux alentours des 12 degrés, les bières, plutôt que 8 degrés. Hein. D'accord, c'est à moins d'un euro. Hein. Alors qu'une petite canette de coca, vous êtes forcément, bon, c'est pas très bon non plus, mais bon, je veux dire, voilà quoi, je veux dire, il y a
un. Oui, mais Frédéric. Après, on va dire le cas de Sup, admettons qui boit sa bière forte sur un banc sur la promenade des Anglais le midi. A priori, c'est pas lui qui va gêner les commerçants ou qui
non, c'est sûr, c'est pas lui qui va gêner les commerçants, mais sur le banc, sur la promenade des Anglais, des fois il a la flemme d'aller jusqu'à la poubelle, donc il la laisse sous le banc. Je suis pas très âgé, mais dans les années 80-90, on appelait ça l'alcool mondain, l'alcoolisme mondain. Et en fait, et je pense qu'il y a un réel problème d'alcool. En général, en fait, que ça soit dans toutes les classes, c'est que ça soit le SDF jusqu'au cadre sup ou au milliardaire.
Bien sûr. C'est juste que
là-dessus qu'il faut. Mais après, j'ai pas de solution.
Mais merci en tout cas pour ce témoignage, Frédéric. Et on termine avec Cyril. Cyril, il est gérant d'une supérette justement à Épinal. Bonjour Cyril.
Oui, bonjour Estelle. Bonjour à tous.
Et c'est vrai que si cette mesure elle était appliquée, ce serait un sérieux manque à gagner pour vous, parce que j'imagine que ceux qui viennent dans votre supérette après 22h, c'est en partie pour de l'alcool.
Alors, je vais compléter un peu mon propos tenu au standardiste. Non seulement je fais de la supérette, mais je suis buraliste aussi.
D'accord.
Donc, de la 8-10, j'en vends, effectivement. Ouais. On se concentre là-dessus depuis tout à l'heure, mais comme vient de dire justement Frédéric, effectivement, là, on fait un peu dans le cliché du SDF, du marginal, etc. Mais pour en vendre régulièrement dans la journée, y compris le soir, bah en fait, moi, j'ai pas que du SDF, j'ai aussi des personnes vachement bien insérées qui ont, qui prennent la canette qui correspond le plus à leur porte-monnaie, leur portefeuille, Donc je trouve qu'on est vraiment trop dans le cliché. Et comme dit dans mon message avant d'avoir le standard, je trouve que la force publique, au bout d'un moment, il faudrait qu'elle se mêle un peu de ses agents. Parce que, elle donne des leçons à tout le monde, il faut fermer à telle heure, il faut faire ci, il faut faire telle chose, on est sous les paperasses, sous les démarches, on fait que ça de nos journées plus qu'on fait du chiffre d'affaires pratiquement. Et en fait, bah, si la force publique avait démontré son efficacité depuis quand, ça serait, il faudrait peut-être qu'elle se souvienne que les personnes qui font marcher le pays, c'est les petits entrepreneurs, c'est la PME, c'est la TPE, et c'est pas en nous écrasant avec des règles et en nous empêchant d'ouvrir correctement qu'on va faire marcher le pays.
Ça
ne ramène que de la dette et de l'inefficacité, on le voit encore aujourd'hui. Hein.
Non, j'entends votre coup de gueule, Cyril. Après, on ne peut pas empêcher les pouvoirs publics d'essayer de faire en sorte qu'il y ait moins d'alcoolisme en France. On sait que c'est un fléau, qu'il y ait plus de sécurité dans les villes, etc. Alors peut-être qu'ils s'y prennent mal, ça j'entends ce que vous dites, mais on ne peut pas leur reprocher d'essayer d'agir, même si là, c'est en tout cas ce que vous dites, vous, c'est dans une mauvaise direction, mais au moins ils essayent quelque chose. Après, bah voilà, Juliette est d'accord avec vous, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais c'est vrai que
c'est pas pour gérer l'alcoolisme, vous le savez très bien, c'est pour répondre à un besoin urgent des commerçants et des riverains d'être tranquilles et de plus se faire embêter par le problème, c'est pas là, on n'est pas en train de gérer l'alcoolisme, on est en train de gérer les marginaux
qui agressent, qui subissent ces désagréments ont le droit aussi d'être protégés, ils paient des impôts, ils créent de la richesse.
Mais oui, mais j'ai pas dit le contraire. Mais est-ce que c'est la bonne solution?
C'est une solution d'urgence,
ça ne marche pas.
Oui, mais ça ne marche pas.
Et ça ne marche pas.
Et ça pénalise les autres, les supérettes, les commerçants.
En tout cas, on va remercier Cyril d'avoir été avec nous. Cyril qui est gérant de supérette à Épinal. On termine avec des messages, Rémi, et le résultat de notre sondage.
Avec ce message de Julien qui nous écrit: interdire la vente d'alcool fort dans les centres-villes. Bon ben, on peut déjà fermer les supérettes, les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, supprimer la licence 4. Du coup, rembourser tous ceux qui l'auront payé pour rien. C'est fou qu'on en soit arrivé là. La prohibition n'a jamais fonctionné, ce que disait tout à l'heure Pierre.
Et on rappelle que l'alcool, c'était évidemment à consommer avec modération. On termine avec le résultat de notre sondage.
Interdire la vente d'alcool fort dans nos centres-villes, vous êtes pour ou contre? Eh bien, c'est le non qui l'emporte pour 66% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Voilà. RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
Bonjour, c'est Charles Magnin.
RMC, Charles Matin.
En cette rentrée, j'ai la recette pour bien attaquer ce mois de septembre. On va être tous ensemble dès 4h30 pour toute l'info en direct, évidemment, toute l'actu sur RMC avec une équipe de choc. Géraldine Demory, Manu Le Chypre, Amélie Rosic, Anthony Morel. Ils sont tous là, évidemment, les invités, l'info, les chroniques et vous, plus que jamais, au 32-16, votre réveil avec le sourire et toute l'info. Ça se passe dès 4h30 dans Charles Matin sur RMC.
Dimanche 15 septembre, vivez l'adrénaline des courses hippiques lors des Qatar Arc Trials à l'hippodrome de Paris-Longchamp avec RMC. L'élite des purs sang et des jockeys s'affronte sur une dernière course préparatoire avant le grand week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Info et Reza, francegallo-live.com. Les Qatar Arc Trials, dimanche 15 septembre avec RMC.
RMC partout, RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
RMC Running. Dimanche 15 septembre, testez-vous sur le 50e semi-marathon Auray-Vannes. Relevez un défi personnel ou encouragez les coureurs sur le parcours breton du golfe du Morbihan. Toutes les infos sur auray-vannes.com. Le 50e semi-marathon Auray-Vannes, dimanche 15 septembre, avec RMC.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. La semaine prochaine, jouez sur RMC, remportez vos AirPods
et peut-être
l'iPhone 16.
Mais pour le gagner, va falloir le déverrouiller.
RMC a 5 chiffres du code de verrouillage, à vous de trouver le 6e.
Alors, écoutez bien RMC et tentez votre chance. RMC, première radio à vous offrir le nouvel iPhone 16. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff. Estelle Midi.
RMC Conso.
Charlotte, dans un rapport publié la semaine dernière, la Cour des comptes indique que la moitié des poulets que nous consommons sont importés. Le problème, c'est qu'il n'est pas toujours évident de savoir d'où vient le poulet que l'on mange. Est-ce qu'il faut continuer à acheter du poulet ?
Alors justement, je vais vous faire un petit jeu des 7 erreurs. J'ai deux boîtes de nuggets de poulet. Alors, je vous les décris pour les auditeurs. Elles sont quasiment similaires, à mon avis, si ce n'est qu'il y en a une qui s'appelle Tenders et l'autre Nuggets. Mais sinon, c'est du poulet, c'est la même marque, c'est la même gamme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, Estelle ?
Alors, il y en a une avec un label avec la France dessinée dessus. Donc, je dirais, comme ça, à vue de nez, que le label avec l'hexagone, label français, ça doit être du poulet français et que l'autre, vu que s'il n'y a rien marqué, a priori non.
Exactement, je retourne la boîte de mon poulet sur laquelle il n'y a rien écrit et en fait je lis en bas de la liste des ingrédients que le poulet est d'origine UE. Donc UE, on n'en saura
Ukraine.
Pas plus.
Bah, c'est Ukraine.
Non, Union Européenne.
Oui, non, mais d'accord, mais souvent il vient d'Ukraine le poulet.
Souvent oui, alors là si c'est UE, l'Ukraine ne fait pas partie de l'UE.
Oui, c'est vrai,
t'as raison. Donc ouais, je ne pense pas. Mais peut-être de Pologne, il y en a beaucoup qui viennent de Pologne aussi. Donc on ne sait pas exactement d'où ça vient. Et quant à ma fameuse salade de poulet dont je vous ai parlé hier, alors là c'est pareil, il y a pas mal, j'ai compté 4 ou 5 drapeaux tricolores dessus. On nous parle de la salade verte française.
Ça fait trop. Ouais.
On nous parle des œufs de poule français, on nous dit même que l'entreprise, elle est de chez vous Estelle, de Bretagne, mais rien sur le poulet. Et je n'ai pas trouvé l'origine du poulet sur cette
salade. Même pas un UE, c'est-à-dire c'est hors UE alors
Probablement, en tout cas on ne nous donne pas l'information. Donc on ne sait pas si ça vient d'Union Européenne, on ne sait pas si ça vient de France, on ne sait pas si ça vient d'ailleurs. Il est très probable que ça ne vienne pas de France, même si 94% du poulet qu'on importe et quand même de l'Union Européenne.
Mais excusez-moi, mais c'est pas obligatoire d'indiquer l'origine du poulet sur un emballage. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si j'achète des nuggets de poulet, je ne peux pas savoir d'où vient le poulet.
Non, à moins que...
Super. C'est super.
Bah, à moins finalement qu'ils viennent de France. Parce que, à la limite, le petit conseil qu'on peut donner, c'est s'il n'y a rien d'écrit sur l'emballage, si ce n'est pas flagrant, s'il n'y a pas un logo ou un drapeau qui saute aux yeux avec écrit volaille française, c'est probablement que la viande ne vient pas de France. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, c'est un argument de vente pour les industriels. Si la viande est française, ils l'indiquent tout de suite, évidemment. Alors, c'est obligatoire d'indiquer l'origine de la viande quand même pour les produits bruts, c'est-à-dire les blancs de poulet que vous trouvez sous vide au supermarché en market. Là, normalement, l'obligation est d'indiquer l'origine de la viande, mais pas pour les produits transformés.
Mais c'est qu'en fait, par exemple, quand tu achètes une marque, le Coq Gaulois ou Loué, c'est des grandes marques françaises, donc tu te dis, bah, forcément, le poulet, il est français, mais là encore, on n'est pas sûr, quoi.
Il faut vérifier. Ça, sur les produits transformés, type nuggets, salades ou plats préparés, conserves, etc., il faut vérifier si c'est rien écrit. Encore une fois, si vous voulez manger local, n'achetez pas parce que c'est probablement que la viande n'est pas française.
J'imagine en fait que les entreprises qui utilisent du poulet non français, c'est pour une histoire de coût.
Évidemment, le poulet importé est deux fois moins cher. Alors les raisons, elles sont évidentes, mais ce sont les conditions de production qui sont moins exigeantes à l'étranger et donc des coûts de production plus faibles. Ça se ressent aussi sur le prix qu'on paye, nous consommateurs, puisque mes nuggets au poulet français, elles sont 30% plus chères que les autres, que leur équivalent au poulet UE. Donc c'est un autre indice à prendre en compte. À produit équivalent, il y a de grandes chances que le moins cher des deux se soit fait avec de la viande importée.
Alors là, quand on est au supermarché, évidemment, on peut se renseigner, on peut regarder les étiquettes, mais quand on est au restaurant, quand on est à la cantine, par exemple, dans son resto d'entreprise, oui. Là, c'est compliqué d'aller voir le cuisinier et de demander l'origine du poulet, quoi.
Bah pourtant, il faudrait le faire, parce que théoriquement, c'est obligatoire. La règle au restaurant, que ce soit dans un restaurant classique, la cantine d'entreprise, ou alors le fast-food du coin qui fait de la vente à emporter, la règle, c'est que l'origine de la viande, et notamment de la volaille, doit obligatoirement être indiquée, qu'on vous serve d'ailleurs du poulet rôti ou des nuggets, hein, parce que c'est pareil depuis assez récemment, ouais. D'ailleurs depuis mars 2024, pour la viande transformée utilisée par les restaurateurs, il doit aussi avoir marqué l'origine. Et le problème, c'est que la loi n'est pas toujours appliquée. Et selon une étude qui date du printemps 2023, seuls 15% des restaurants affichent clairement l'origine. C'est pour ça que ce que je vous conseille, c'est de ne pas hésiter, de ne pas faire votre timide, de demander au restaurateur d'où vient la viande que vous me servez.
Oui, alors si 15% affiche l'origine de la viande, c'est-à-dire qu'a priori, il y a 85% du poulet qui ne vient pas de France.
Non, c'est pas. Alors là, pour le coup, autant pour les industriels, je ne dis pas, mais pour les restaurateurs, ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté. Certains ne connaissent tout simplement pas la loi. Donc, ils ne savent pas qu'ils doivent l'indiquer obligatoirement. Donc, demandez-leur. Et normalement, ils doivent vous répondre. Sinon, vous pouvez contacter la répression des fraudes. Oui, là, ça enfin, je ne veux pas faire de la délation non plus.
Ça ne va pas se terminer dans la même ambiance.
Oui, c'est sûr.
Merci beaucoup, Charlotte Mériton. On retrouve bien sûr cette chronique en podcast RMC. rmc.fr, l'appli RMC, toutes vos applis de téléchargement. On parle de quoi demain, Charlotte?
Demain, on parle des tickets de caisse qui ne sont plus imprimés. Ça fait un an
qu'ils
ne sont plus imprimés. Quel bilan on en tire? Est-ce que les Français continuent de les réclamer ou pas? On fera un petit point.
Mais il paraît qu'il y a des gens qui réclament les tickets de caisse.
Bien sûr, il y en a plein.
Ça me sidère.
Il y a des erreurs aussi, c'est ça le problème. Il y a des erreurs entre parfois le prix affiché en rayon et le prix en caisse. Donc,
ah d'accord. Ah bah écoutez, écoutez, très bien. Merci beaucoup, Charlotte. On vous retrouve demain, 14h30, dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
RMC, 4h30. Bon réveil à tous, bienvenue sur RMC, comme chaque matin, dès 4h30, nous sommes en direct pour vous informer de votre tout premier journal de la matinée, c'est avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. La droite donne son feu vert à une participation au prochain gouvernement, gouvernement nommé la semaine prochaine, promesse du Premier ministre Michel Barnier. Vous entendrez la colère du père de Camilia, fillette de 7 ans, fauchée fin août à Valoris par un motard de 19 ans qui reste en liberté sous contrôle judiciaire. Et puis Mbappé refuse la médiation de la LFP dans le conflit qu'il oppose au PSG, l'attaquant réclame à son ancien club 55 millions d'euros de salaire et de primes impayées.
Les Républicains prêts à intégrer le nouveau gouvernement.
Oui, Laurent Wauquiez a donné son feu vert tout en restant attentif sur les garanties d'une vraie politique de droite. Michel Barnier aura donc l'occasion d'en discuter ce jeudi à l'occasion d'un déplacement à Annecy pour les journées parlementaires du parti. Le Premier ministre qui promet désormais la nomination du gouvernement la semaine prochaine, Sébastien Krebs.
Lorsqu'il reçoit ses interlocuteurs, Michel Barnier reste volontairement très discret. Il ne prononce jamais aucun nom, témoigne l'un de ses visiteurs. « Ne soyez pas impatients », répète le nouveau Premier ministre. Mais sa liste se dessine. Il a même prévu de recevoir dès ce week-end ses futurs potentiels ministres. Un casting avec des équilibres très délicats à trouver. La droite aura la main, reconnaît un élu. Mais attention à ne pas brusquer les macronistes qui devront eux aussi monter dans le bateau. Il veut des expérimentés et des plus jeunes, raconte un proche. Et il s'interroge aussi en particulier sur le choix du ministre qui sera en charge des relations avec le Parlement, poste qui va devenir essentiel. Quant à recruter une personnalité venue de la gauche, là cela paraît mission impossible. Je ne vois vraiment pas qui va pouvoir décrocher, résume un conseiller à l'Assemblée.
Le Premier ministre soutenu par Édouard Philippe, candidat pour 2027, déclaré le leader Horizon, salue la nomination de Michel Barnier par le président de la République, Emmanuel Macron, qui déclare devant le Conseil d'État l'importance de toujours prendre en compte le suffrage des Français et réaffirme être le garant de la souveraineté de la nation. Une mère abattue dans l'appartement de son fils, grièvement blessé. Ça s'est passé hier à Lémeil-Brévannes, dans le Val-de-Marne. La piste d'une altercation intracommunautaire qui aurait dégénéré est actuellement explorée par les enquêteurs. La justice a tranché. Le motard qui a tué la petite Camilia fin août à Valoris reste libre sous contrôle judiciaire en attendant son procès. La cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme la décision du juge des libertés. Décision incompréhensible pour le père de la fillette, Slim, en colère.
Est-ce que la justice, elle se rend compte que ce motard, il a commis un meurtre, en fait? Parce que ce motard, il a décidé d'oublier le code de la route et de prendre la route par un terrain de jeu. Est-ce que la justice, elle a pris ça en compte? Est-ce que la justice, elle a pris ce qu'on ressent, nous, en tant que famille qui a perdu un enfant de 7 ans? J'avais espoir, en fait, que la justice, aujourd'hui, montre un peu d'exemple et un peu d'espoir au peuple français, qu'il peut y avoir des changements, qu'il peut y avoir des améliorations. Je ne sais pas à quoi elle sert, la justice, hein.
Slim Oussaya, le père de Camilia, invité d'Apolline à 8h10 ce matin sur RMC.
Et c'est dans ce contexte qu'on vous révèle ce matin sur RMC en exclusivité le dernier baromètre de la Fondation Vinci Autoroute sur le comportement des motards, des deux roues motorisées.
Avec un chiffre qui fait froid dans le dos, 99, c'est le pourcentage de motards qui avouent dépasser de quelques kilomètres la limitation de vitesse. Parmi les autres chiffres, plus de 8 usagers de deux roues sur 10 reconnaissent ne pas respecter les distances de sécurité. La moitié des motards avouent également doublé par la droite.
Ouais, des chiffres qui font froid dans le dos. On va vous poser directement la question ce matin à la lecture de ce baromètre. Est-ce que les motards sont des chauffards? Est-ce que les motards sont les principaux dangers aujourd'hui sur la route? C'est vous qui allez nous le dire ce matin au 32-16. Vous êtes sur la route, tiens, vous êtes motard aussi. Venez nous raconter, évidemment, les précautions que vous prenez. Et puis surtout, le comportement des motards, des jeunes motards notamment. Vous allez entendre dans nos reportages ces directeurs d'auto et de moto-école qui disent le problème, c'est qu'on a des jeunes qui viennent passer le permis moto avec déjà dans l'idée de se faire plaisir, de prendre de la vitesse, de faire des figures, des rodéos. Est-ce que les motards sont devenus le principal danger sur la route? Est-ce que les motards sont des chauffards? C'est vous qui allez nous le dire ce matin. Que voyez-vous sur la route? Le 32-16 est ouvert. Nico vous attend déjà. On lit aussi tous vos messages sur l'appli RMC avec Direct Studio.
RMC, il est 4h34. Le procès de l'affaire Mazan va se poursuivre sans Dominique Pellicot jusqu'à lundi, au moins. L'état de santé du principal accusé qui devait être entendu aujourd'hui s'est aggravé. C'est donc sans lui que le procès va se poursuivre, à moins que les débats ne soient suspendus demain. Hier, l'audience s'est intéressée au seul accusé qui n'est pas renvoyé pour viol en réunion sur Gisèle Pellicot, mais sur sa propre épouse avec Dominique Pellicot, une victime oubliée de ce procès. Marion Dubreuil.
Oui, car jusque-là, cette femme de 53 ans n'a pas souhaité se constituer partie civile contre son mari pour protéger ses enfants. C'était l'homme de ma vie, tout était formidable, je suis tombée de très très haut, on a été anéantis, elle pleure. Première fêlure dans le bonheur familial, cette nuit où elle se réveille face à un inconnu qui prend la fuite. Elle apprendra plus tard que c'était Dominique Pellicot, son mari lui dit qu'il est venu voir sa lingerie. Je n'y crois pas, mais je ne pouvais pas me douter qu'il s'agissait de viol. Elle le découvrira avec les vidéos au commissariat. Moi j'attends qu'il me dise la vérité, pourquoi il a fait ça alors que rien ne le présageait, c'est pas possible de pardonner. Je vais essayer de comprendre. Est-ce qu'il a pu se faire embobiner, demande le président. S'il n'était pas tombé sur la mauvaise personne, il n'aurait jamais fait ça. Sur ordre de son avocat, l'accusé se lève. En larmes, son épouse dit avoir encore de l'affection, mais plus d'avenir avec lui.
Marion Dubreuil, service police justice RMC. Kylian Mbappé n'en a pas fini avec le PSG, l'attaquant du Real Madrid en litige avec son ancien club portant sur des impayés. Il vient d'ailleurs de refuser une proposition de médiation proposée à Arthur Perrault par la Ligue de foot professionnelle.
Oui, légère avantage au Paris Saint-Germain, mais la guerre judiciaire ne fait que commencer. La commission juridique a décidé hier de demander une médiation entre le club et Kylian Mbappé pour que les deux camps parviennent à un accord. Le conflit résulte d'un contrat non signé en août 2023. Le capitaine des Bleus réclame 55 millions d'euros à son ancien employeur de salaire et primes impayées. Via un communiqué, le PSG se dit satisfait de l'audience de 2 heures qui s'est tenue avec les avocats du joueur. Mais Kylian Mbappé annonce rejeter cette médiation. L'affaire doit se prolonger devant l'UEFA aussi saisi par l'attaquant du Real Madrid et surtout devant le tribunal des prud'hommes. Un long feuilleton juridique commence dans lequel l'entraîneur Luis Enrique et le conseiller sportif Luis Campos pourraient être auditionnés.
Une voix, un style et une façon de raconter le foot comme personne. Didier Roustan est mort, pilier de l'équipe. Il avait débuté sa carrière dans l'émission Téléfoot sur TF1. Son décès à l'âge de 66 ans suscite une forte vague d'émotions. Michel Denisot, Arsène Wenger ou encore Luis Fernandez, tous saluent un passionné amoureux du foot. Et puis la neige qui fait déjà son retour sur les massifs dans les Alpes, principalement des 1500 mètres. C'est la conséquence des chutes des températures provoquées par un air froid descendu de l'Islande. Fraîcheur inhabituelle pour un mois de septembre que vous avez sûrement constaté. Si vous avez mis le nez dehors ce matin, au plus fort de la journée, comptez 14 degrés à Lille, 15 à Paris, 18 à Toulouse, 20 à Marseille, 26 à Bastia, où le soleil résiste avec du vent ailleurs. Temps gris accompagné d'averses.
4h37 sur RMC, c'était le journal de Thibaut Texer, qu'on retrouve tout à l'heure à 6h.
À tout à l'heure.
Charles Matin, mais tout de suite sur RMC, on vous attend au 32-16, parce qu'on va se retrouver dans un quart d'heure avec toute l'équipe, avec Géraldine, avec toute la bande. Et vous, au 32-16, on vous attend particulièrement sur ce baromètre qu'on vous dévoile ce matin sur le comportement des motards, le comportement des deux roues motorisées. Hein. Vous conduisez une moto, vous conduisez un scooter. Racontez-nous comment vous vous comportez, soyez honnête. Hein. C'est tout ce que je vous demande ce matin au 32-16, parce que quand on voit ce baromètre, 99% des conducteurs de deux roues avouent rouler trop vite régulièrement. 8 sur 10 reconnaissent ne pas respecter les distances de sécurité. Ils doublent par la droite, les coupes-files, etc. Racontez-nous le comportement des motards sur la route. Vous êtes automobiliste aussi, vous êtes témoin de ces comportements. Est-ce que les motards sont les nouveaux chauffards? N'hésitez pas, le 32-16 est ouvert ce matin. On va lire aussi tous vos messages, toutes vos réactions en direct sur l'appli RMC grâce à Direct Studio. Vous connaissez la formule, on est tous ensemble le matin pour se réveiller avec toute l'info, la bonne humeur aussi dans Charles Matin. C'est parti dans un quart d'heure avec toute l'équipe, avec vous. Et puis d'ici là, vous profitez des meilleurs moments d'Estelle Midi.
Merci Charles, et on vous retrouve juste avant 5h. Ce sera après les meilleurs moments d'Estelle Midi sur RMC.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Et on démarre, Rémi, avec la décision du jour.
La décision du jour, celle prise par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le jeune motard qui a mortellement blessé une fillette de 7 ans le 29 août dernier à Valoris, dans les Alpes-Maritimes, a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Décision prise il y a quelques heures. Le parquet réclamait, lui, son placement en détention provisoire. Et la famille de la victime, évidemment, est très en colère.
Vous comprenez cette colère, Juliette Briens, effectivement, de ce motard qui a tué cette petite fille à Valoris et qui est laissée en liberté.
C'est très difficile de ne pas comprendre la colère et le désespoir des parents qui ont perdu leur petite fille et dont ils savent que l'auteur est déjà chez lui à la maison. Donc évidemment que je comprends. Après, et c'est dur à dire, mais je suis obligée, c'est dans ces affaires, parfois il faut être raisonnable, comprendre que détention provisoire n'est pas condamnation, qu'il y aura un procès équitable, et que le profil de l'agresseur, qui n'est pas du tout un multirécidiviste...
C'est un jeune homme de 19 ans.
Ouais, de 19 ans. Sans casier, qui n'avait pas de stupéfiant, pas d'alcool, voilà, véhiculé assuré.
Et sans circonstances.
Et qui dit qu'il a eu un problème de conduite et qu'il a perdu le contrôle, voilà, de son...
Il y aura une enquête. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. S'il avait une conduite dangereuse ou pas. Mais en tout cas, il faut être raisonnable dans le dossier et se dire qu'effectivement... la détention provisoire fait figure d'exception dans le droit français et qu'il faut des critères extrêmement précis qui soient respectés pour qu'il y ait matière à emprisonner en amont du procès. Et donc, je comprends, oui. Et bien sûr que je comprends les parents.
Est-ce que la mort d'une petite fille est un critère? A priori, oui. Enfin, on se dit
non,
que...
c'est pas le critère. Les critères, c'est est-ce qu'il y a danger public.
C'est bien.
Voilà. Mais je suis obligée de le dire. Mais moi, je comprends. Si j'étais à leur place, je serais exactement dans le même état. Enfin, moi aussi, je serais en colère. Moi aussi, j'arriverais pas à croire que ma fille, elle est dans sa tombe et que lui soit chez lui. Enfin, qu'est-ce que je...
Oui, est-ce qu'il y a un risque de fuite? Non. Parce qu'il y aura un conduit sous contrôle judiciaire. Donc, il va falloir pointer à la police ou à la gendarmerie régulièrement.
Ça va, on va pas.
Non, mais je veux dire.
En attente de condamnation.
Oui, bien sûr.
Non, je veux dire qu'il n'est pas dans la nature. Il est sous contrôle judiciaire. Il est sous les radars et il doit pointer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque qu'il s'en aille. Je veux dire, un gars de 19 ans. Et puis surtout, il n'avait pas de casier. Quand quelqu'un. On y a tellement de gens qui ont des casiers longs comme le bras et qui sont en liberté.
Oui.
Il eût été compliqué d'expliquer que cette personne qui. C'est peut-être, alors c'est un accident, c'est peut-être provoqué, on ne sait pas.
Non.
Voilà, pour l'instant, la justice se donne le temps de travailler, notamment avec les experts pour l'histoire de la moto, parce
bien
que
sûr.
Son avocat explique voilà, qu'il ne faisait pas droit, enfin qu'il a eu un problème mécanique. Mais laissons l'enquête se faire, quoi. Bien sûr qu'on comprend la famille, mais on ne peut pas mettre tout le monde en prison tout le temps.
Bah, j'ai rien à rajouter parce que je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Juliette et Fred.
Bien, nous allons passer à un autre sujet.
Allez.
Le rôle du jour.
Le rôle du jour, c'est celui interprété par Brigitte Macron qui apparaîtra demain dans la deuxième partie de la saison 4 de la série Netflix Emily in Paris. Le secret a été soigneusement gardé jusqu'ici. L'épouse du président français interprète son propre rôle. Elle s'y présente avec ses propres habits sans qu'aucune consigne vestimentaire particulière ne lui a été donnée, c'est ce que précise le magazine Elle.
Pierre Rondeau, ça vous gêne ou vous dites c'est la première dame, elle fait bien ce qu'elle veut?
Alors c'est la première dame, elle fait bien ce qu'elle veut, n'étant pas un aficionado de cette série.
Moi non plus.
Pas vu un seul épisode et j'ai pas envie de les voir.
Ça vous donne pas envie de regarder?
Encore moins avec l'apparition de Brigitte Macron.
Attendez,
je préfère regarder d'autres séries que cette série Made in Paris.
Et si elle avait tourné dans Game of Thrones, t'aurais regardé alors?
Bah, je regardais non pas parce qu'elle était là. mais vous voyez, elle fait ce qu'elle veut. Alors voilà, elle n'est pas actrice, peut-être qu'elle prend le rôle de quelqu'un d'autre.
Mais non, elle prend son rôle.
Mais vous êtes exigeant.
Elle est un petit peu que Brigitte Macron pour jouer Brigitte Macron.
Elle fait ce qu'elle veut, on est d'accord, elle fait ce qu'elle veut.
Mais c'est au-delà
qu'elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut, elle joue son propre rôle, elle joue la première dame. Qui officiellement dans le droit français n'a aucun titre. Oui. Pourtant là on le met en avant. Alors c'est une série américaine. Les Américains, la First Lady, c'est un titre officiel. Donc ils s'imaginent qu'en France c'est pareil. Nous en France c'est pas le cas. Mais là-bas avoir un bureau et un secrétaire, officiellement elle n'a pas de titre, elle n'existe pas. Mais voilà, elle fait ce qu'elle veut. Elle prend le rôle d'une actrice très bien. Elle fait ce qu'elle veut.
Mais enfin, excusez-moi. Là c'est pour jouer un mini rôle. Enfin, elle est pas la star de la série.
Vous savez qu'il y a des séries politiques. Vous avez des séries politiques où des acteurs et actrices professionnels pointent pour.
Mais là elle joue Brigitte Macron.
Non, mais elle pourrait jouer la première dame. Enfin bref, elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Ça me dérange pas. Si vous voulez, ça me dérange pas. Ça me dérange pas.
Très bien, Pierre.
Je ne regarderai pas. Elle fait ce qu'elle veut.
Moi, je trouve ça. Non seulement ça me dérange pas, mais je trouve ça très bien. Pour une raison très simple, c'est de la promotion de notre pays.
Oui.
On n'a pas besoin d'elle pour.
Oui, c'est ça. J'ai vu Brigitte Macron, je vais aller en France.
Mais vous savez que les Américains. Brigitte Macron est quelqu'un de très respectable, qui s'habille bien, qui s'habille à la française, qui est aussi. C'est pourquoi c'est très important que la femme du président de la République, je n'utilise pas le terme première dame, parce que je suis d'accord avec toi, ça n'existe pas chez nous. Que l'épouse du président de la République soit bien habillée avec des marques françaises, parce que. Elle voyage dans le monde entier, elle est très présente sur les photos.
Et quel rapport?
Mais c'est de la promotion pour... On parlait du luxe qui se cassait la gueule.
C'est la promotion pour les vêtements?
Eh bien sûr.
Ah, c'est de la pub? Mais, fallait le dire.
Bien entendu. Mais c'est pas. Non, mais. On avait reproché pas. Quand on reproche à Brigitte Macron, on lui prête des vêtements parce que ce sont des vêtements français. Mmh. Et c'est la promotion de la haute couture française, de la classe à la française.
Il faut savoir que c'est très répandu aux États-Unis. Oui. Michelle Obama a tourné dans. Enfin, est apparu dans pas mal de séries aux États-Unis.
Et donc, je termine. Et là, Émilie Paris, qui donne une vision idyllique de Paris et de la France, elle apparaît là. Ben, elle est en représentation de notre pays. De la même manière que quand elle accompagne le président de la République à un sommet international, elle est en représentation.
Oui, enfin, elle est. Oui, excuse-moi, mais enfin, Brigitte Macron, elle est quand elle représente la France à un sommet international, elle est dans son rôle. La Émilie de Paris, elle sort un peu de sa fonction.
Mais justement, elle est parfaitement dans son rôle. Ah, elle n'a pas de fonction, Estelle. Elle n'en a aucune. Elle n'est pas première
jaune, alors.
Mais non, mais elle n'a pas vraiment de fonction officielle. Donc là, elle est parfaitement dans son rôle.
Et
elle fait exactement.
Elle a un bureau, elle a un secrétaire.
Attends, il y a plein de gens qui lui écrivent.
Ah, laissez-moi finir.
Bon.
Elle est parfaitement dans son rôle. Elle fait ce qu'elle a à faire justement pour faire effectivement briller la France et la représentation que s'en font les touristes à l'international, qui est vraiment le propre de cette série que je vous recommande parce que c'est d'une niaiserie absolument délicieuse. C'est d'une niaiserie absolument délicieuse. C'est magnifique. Tout est très beau et les touristes en rêvent. Et là, elle est exactement dans son rôle. Les touristes étrangers, ils n'en ont rien à faire de la politique de Macron, etc. Ils ont une image du couple Macron qui leur plaît. Et effectivement, le style de Brigitte Macron leur plaît. Et là, elle est très bien dans cette série. Elle est parfaitement à sa place.
Après, pour moi, c'est le scandale de ces dernières années. Pardon, mais c'est à cause de votre série qui a des fleurs en plastique partout sur les restaurants maintenant.
Mais moi j'adore.
Donc écoutez, moi je déteste, ça m'envoie.
Moi j'aime bien.
Je déteste
aussi. Il y en a qui abusent, mais franchement, il y en a
jamais. Je ne vais dans un restaurant avec des fleurs en plastique.
Oh là là, ça
sera pas jamais.
C'est mignon.
Super joli.
Mais bien sûr, c'est à cause d'elle.
Mais c'est joli. Il y a certains qui le font très bien.
C'est horrible.
Aubervilliers,
ça c'est un attrape-gogo. Direct, je sais que.
Non, si quand c'est bien fait, c'est très joli.
Mais d'accord.
C'est mieux que les poubelles, les rats.
Mais quel rapport?
Je sais pas quand même.
Non, taisez-vous de la couleur. Taisez-vous. La facture du jour.
La facture du jour, selon Mediapart, la députée Rassemblement National du Pas-de-Calais, Christine Engrand, s'est servie de
son... Elle a vu Engrand, ça c'est sûr.
Oui, ça c'est sûr. Elle s'est servie de son enveloppe d'élu d'un montant de 5 950 € par mois à des fins personnelles, des transactions qui dépasseraient les 10 000 euros d'argent public pour régler une pension à ses deux chiens à hauteur de plusieurs milliers d'euros entre 2022 et 2023, un abonnement à un site de rencontre pour 39,99 € par mois. Elle a aussi réglé des frais d'obsèques d'un montant de près de 6 000 €. Christine Engrand, qui a tout d'abord nié les faits, reconnaît aujourd'hui des erreurs de paiement et assure avoir remboursé toutes ces sommes.
Non mais là quand même, Pierre Rondeau, enfin, on atteint un sommet. Comment tu peux à un moment, je veux dire, te servir de ton enveloppe d'élu pour payer un abonnement à Mythique ou à Tinder? C'est pas possible.
C'est que pour elle, elle aurait été blanchie parce que c'est bon, elle a remboursé. C'est bon, voilà.
Non, en fait.
Si Mediapart n'avait jamais révélé ça, elle aurait pu continuer. Elle aurait pu continuer à aller sur Mythique, aller sur Adopt un mec, à payer des pensions à ses chiens, à payer des obsèques ou autres, avec la carte et avec l'enveloppe parlementaire. Et heureusement, parce que souvent ils ont été critiqués, souvent critiqué la presse d'investigation qui parfois souvent était à charge. Heureusement que Mediapart a fait ce travail, a fait cette révélation. Cette députée, il y a des pays, notamment en Scandinavie, vous savez à quel point j'aime ces pays scandinaves. Il y a des pays où des députés, des élus démissionnent. Après avoir acheté du Toblerone ou du chocolat avec leur carte d'élu parlementaire. Et là,
De Gaulle payait le goûter à ses petits-enfants.
De Gaulle payait
l'électricité et l'eau de l'Élysée.
Et voilà. Exactement. Et là, on parle de combien? C'est plus de 10 000 euros de dépenses avec son enveloppe parlementaire. Et voilà. Moi, vraiment, ça me choque. Elle devrait vraiment démissionner, qu'elle soit de droite ou du RN, peu importe. Elle doit démissionner.
Ou de gauche aussi.
Peu importe.
Si tu veux.
La disparition du jour.
On l'a appris ce matin, la disparition de Didier Roustan. Il avait débuté sa carrière en 1976 au service des sports de TF1 lors d'un stage. C'est sur cette chaîne, évidemment, qu'il s'est fait connaître et qu'il reprendra le magazine Téléfoot en 1984 avant de rejoindre Canal+. C'était au début des années 90, France 2. Et puis, évidemment, la chaîne d'équipe.
Ouais, il était le président, notamment, de l'équipe du soir depuis de très nombreuses années. C'était un amoureux du foot, il adorait l'Argentine, il adorait Maradona, et toujours des chemises improbables, une voix inimitable, et c'est vrai que ça laisse un très grand vide. Fred Hermel, on a tous grandi avec Didier Roustan.
Oui, et puis bon, bien sûr, tous ceux qui avons bossé dans le foot, on connaissait Didier Roustan depuis très longtemps. C'est un foot qui n'existe plus. C'est le foot que je regrette moi aussi. Hein. Ouais. Moi, je suis un peu de cette génération. Je suis plus jeune, mais un peu de cette génération de foot. Le foot des années 80-90, c'est Platini, c'est Maradona, c'est...
Bien sûr.
plus la technique que le physique, c'est le beau jeu, c'est une certaine voilà. Et puis il y avait eu cette histoire de parce que les joueurs ont toujours eu beaucoup de mal à se défendre. En 1995, avec Maradona, il avait créé l'association de une sorte de syndicat des footballeurs professionnels dans
exactement.
Le monde. Bon, ça a pas donné grand chose, mais enfin ça commençait parce que c'est assez rare les footballeurs en général se défendent tout seuls. Voilà, sont plutôt individualistes. Ils avaient essayé de créer une espèce de mouvement mondial. Donc c'était intéressant. Oui, donc c'était ça. Quand j'ai appris ça ce matin, je me dis, ah tiens, zut, Diego Stone est mort. Enfin, voilà, ça fait partie des personnages qu'on connaissait, et encore plus dans le métier, quoi. Voilà, c'est.
Et c'était effectivement une certaine idée du football, la noblesse du football, quoi. Voilà, le beau jeu. Et puis c'était un formidable chroniqueur également, Didier Roustan, avec des emportements, etc. Et c'est vrai qu'il va beaucoup nous manquer parce que je trouve que c'est une certaine époque, en tout cas, une certaine époque sportive qui disparaît avec lui.
Oui, et puis une certaine manière aussi de parler de foot, parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus policé, on a l'impression qu'ils ont tous les mêmes voix quand ils commentent les matchs. Didier Roustan le reconnaissait dès la première syllabe.
Oui, c'est sûr qu'il va nous manquer. Moi, je me rappelle, c'est en 2020, j'avais travaillé un an sur la chaîne L'Équipe. Et la première fois que j'étais intervenu, c'était sur les sujets assez pointilleux, l'économie du foot, du sport, des trucs assez ennuyeux pour les fans de terrain, les fans de jeu. Et ils s'imaginaient venir parler comme ça d'économie sur une chaîne de foot. Et je me rappelle, il m'avait accueilli avec beaucoup de bienveillance. Il était très intéressé, très intéressant. Il avait su réagir, il avait su, voilà, m'amener vers un traitement du sujet. Enfin, vraiment, moi, j'en garde un très bon souvenir. Et c'est vrai que ce matin, en apprenant la nouvelle, j'étais assez peiné. Et il va nous manquer, hein. Même si, effectivement, on pourrait se poser la question. Voilà, il prenait un football qui, aujourd'hui, j'ai le sentiment, n'existe plus.
Mais
c'était un défenseur du beau jeu qui préférait une belle défaite qu'une victoire ennuyeuse. Et oui, il va nous manquer.
Et on pense très fort, évidemment, aujourd'hui à lui et à toute sa famille.
RMC, retrouvez Estelle Midi en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr. RMC, les grandes gueules.
Bonjour, c'est Alain Marchal. Tout à l'heure, de 9h à midi, venez discuter, venez débattre avec les GG, avec les grandes gueules. On a un retour dans les GG, celui de notre chef d'entreprise, le fromager des Deux-Sèvres, Johnny Blanc. Il sera avec nous, entouré de Frédéric Farah, le professeur d'économie, et Barbara Lefebvre, l'enseignante en histoire-géographie.
RMC, les grandes gueules, tous les jours, 9h midi.
Le 29 septembre à Saint-Cloud ou connecté depuis le lieu de votre choix, rendez-vous à la course Enfants sans cancer avec RMC. Un événement festif et solidaire à ne pas manquer pour soutenir la recherche. Inscrivez-vous vite sur enfantssanscancer.com. La course Enfants sans cancer, le 29 septembre à Saint-Cloud ou en connecté avec RMC. Jusqu'à dimanche, sur le circuit Paul Ricard, c'est le Bol d'Or avec RMC. Le mythe de l'endurance moto est de retour pour une 87e édition. Village moto, show mécanique, exposition moto et un concert du groupe All In Joyce. Info IRESA sur boldor.com. Le Bol d'Or moto, jusqu'à dimanche, sur le circuit Paul Ricard avec RMC. Cette semaine, c'est l'Open Blue Rennes, le tournoi majeur de tennis en Bretagne avec RMC. Au Liberté à Rennes, fêtez les 18 ans de l'événement de la rentrée. Richard Gasquet, Lucas Pouille, Benjamin Bonzi, Benoît Paire, Pierre Hugerbert, qui remportera l'Open Blue Rennes.
Rendez-vous cette semaine. Place des 4 euros sur opendoren.org avec RMC.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff. RMC, Estelle Midi.
Le dame court du jour.
Et alors que Michel Barnier, notre nouveau Premier ministre, est en train de préparer son gouvernement, les ministres démissionnaires sont dans les cartons. Et nous recevons aujourd'hui Jeff Lombert, qui fait partie non pas des déménageurs bretons, mais des déménageurs Macron, l'entreprise qui prend en charge le déménagement des ministres. Bonjour Jeff.
Ah bonjour Estelle, je suis venu rapidos parce que là c'est le coup de feu. Hein. On est dans les starting blocks, ça peut dégager de partout, à tout moment. Hein. Comme on dit, j'ai le canetard en double fil qui clignote. Quoi.
Et un déménagement de ministres, Jeff, ça se passe comment?
Ah bah ça se passe comme un déménagement traditionnel, on transporte les dossiers, les affaires pro, les gros meubles, il y a même des pianos parfois. Mais bon, le plus dur à déplacer, c'est pas ça. Hein.
C'est quoi?
Ah bah c'est les ministres eux-mêmes. Oh là là, ça pleure, ça s'accroche, ça se roule sur le sol, ça chouine. Je veux pas partir. Regardez là, ma griffure dans le cou. 3 points de suture, c'est Marlène Schiappa. Gouvernement Castex 2022. Ah la tigresse, j'ai failli y rester les copains.
Alors j'imagine que vous proposez plusieurs formules de déménagement.
Alors ouais, on a une formule classique, hein, faut le savoir, avec un partage de cartons, démontage des bureaux. Et puis on a des formules, bon, un peu plus...
Mais c'est quoi ce volume?
Ah non, bah ça. Non, bah ça, c'est l'option broyeuse à papier.
Ah oui, bah.
Ah ouais, bah ils la prennent tous. Hein. On fait disparaître les dossiers un peu gênants, du genre facture de jet pour un Paris-Boulogne-Billancourt. Vous voyez, genre. Enfin, nous, on est des petits joueurs parce qu'au ministère du Travail, ils ont 8 broyeuses directement sur place.
Pour déménager?
Non, pour détruire le code du travail. Et je peux vous dire que le prochain locataire, il sera peinard, il n'y en aura plus. Hein.
Et alors, déménager un ministère, est-ce que vous arrivez à le faire en une seule journée?
Ah bah alors, ça dépend. Avec certains, en une journée, c'est plié. Hein. Surtout avec ceux qui sont très bien organisés. Je me rappelle Édouard Philippe, un modèle du genre. Il avait tout bien rangé dans des boîtes étiquetées. La boîte cravate, la boîte mocassin, la boîte cheveux, la boîte sourcils. Un pro, le gars, un professionnel.
Mais est-ce qu'il y a des ministres dont vous appréhendez le déménagement?
Ah bah Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, ça va être un sacré bordel. Il a demandé 14 semi-remorques. Je sais pas où je vais trouver ça, moi.
Mais il avait autant de meubles dans son bureau?
Ah non, c'est pas des meubles, c'est parce qu'il a stocké l'ensemble de ses romans invendus à Bercy. Ah ouais, on va y passer du temps à porter du renflement brun, je vous le dis, moi.
J'imagine que vous avez terminé le déménagement de Gabriel Attal et l'aménagement de Michel Barnier.
Eh ben non, on est dessus et c'était le gros chantier, ouais.
Enfin, c'était il y a 6 jours, vous n'êtes pas très rapide.
Eh ben ouais, mais vous êtes marrante, Madame Denis, mais on doit transformer la rampe de skate de Gabriel Attal en rampe d'accès pour Michel Barnier. Donc, et il faut poser un monte-escalier Stana pour qu'il accède au premier étage. Donc, c'est du boulot. Hein.
Bon, avant de nous quitter, ouais. Vous qui êtes au plus près du terrain, vous avez sûrement des noms à nous donner pour le futur gouvernement.
Je vous vois venir. Mais non, je suis tenu au secret. Là, relou, excusez-moi. Ouais, Madame Royale. Non, on ne peut pas vous déménager. Non, on peut pas vous emménager dans un ministère tant qu'il pas une nomination officielle. Bah, eh oui, bah c'est ça. Bah, patientez. Ah là là, la relou. Ouais.
Franchement, donnez-nous un.
Bah. Ah, excusez-moi, ça ressonne. Oui, monsieur Mélenchon. Ouais, eh bah, vous annulez. Je vais être obligé de vous facturer l'immobilisation des camions. Ça fait plus d'un mois qu'ils sont chargés. Ah, ils gueulent. Eh bah, j'y peux rien. Oui, la République, c'est vous. Eh ben, les déménagements, c'est moi. Voilà.
En tout cas, Jeff, on découvre quand même que déménager des ministères, c'est tout un art.
Ah bah ça, c'est sûr. Et puis, on a du boulot. Donc là, je dois vous laisser parce qu'on a tout le dressing de Rachida Dati à vider. On est 350 sur le coup. Je peux vous dire, c'est plus un déménagement, c'est la Fashion Week. Allez, salut.
Merci beaucoup, Jeff Lombert, alias Pierre-Antoine Damecourt, qu'on retrouve tous les jours dans Estelle Midi, dans le Damecourt du jour. Et puis, bien sûr, à toute heure du jour et de la nuit, vous pouvez retrouver toutes les chroniques de Pierre-Antoine en podcast, rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi.
Retour d'Estelle Midi tout à l'heure en direct à midi sur RMC et en attendant, Charles Matin avec vous, Charles Magnin. Bonjour Charles.
Bonjour Estelle, bonjour à tous. Oui, c'est parti à 4h56, on est en direct, c'est Charles Matin. Good morning. Good morning.
RMC, 5h-6h30, Charles Matin,
Charles Magnin.
Bon réveil à tous, bonjour Géraldine.
Salut Charles.
Ah, j'ai fait exprès
le méchant
de la faire courir.
J'étais en train de changer d'ordinateur parce que j'ai un souci technique.
Voilà, j'ai fait exprès de la faire courir au micro. Vous l'entendez, Géraldine est déjà là, tout est prêt, je vous rassure, tout fonctionne. À 4h57, on est en direct, évidemment, comme chaque matin, pour vous accompagner, vous les lève-tôt, les couche-tard, les courageux de la nuit. On est tous ensemble pour toute l'info, évidemment. Quand vous vous levez tôt sur RMC, vous êtes les premiers informés. Les journaux, toutes les demi-heures, beaucoup d'infos, tous nos rendez-vous ce matin. Bon, je vous rassure tout de suite, vous n'avez rien loupé. On n'a pas de nouveau gouvernement ce matin à vous annoncer. Non, on n'a toujours pas de gouvernement. Il faudra attendre au moins la semaine prochaine. Tiens, en revanche, ce matin, on a des nouvelles de Brigitte Macron.
Eh oui, Brigitte Macron qu'on retrouve dans la série Emily in Paris sur Netflix. Mise en ligne aujourd'hui de la deuxième partie de la saison 4. Je vais vous raconter un petit peu les coulisses dans mon bonus à 6h-10. Et la première dame donc qui joue les actrices.
Pourquoi pas, bon, ça vous fait peut-être réagir ce matin. N'hésitez pas, le 32-16 est ouvert. Vous connaissez le principe, le matin, vous avez toute l'info sur RMC et ça se passe avec vous. À tout moment, vous intervenez le 32-16, l'appli RMC Direct Studio pour toutes vos réactions. Et un débat sur lequel on vous attend particulièrement ce matin, une question. Les motards sont-ils les principaux dangers sur la route? On vous révèle ce matin sur RMC les chiffres édifiants d'une étude de la Fondation Vinci Autoroute.
99% dépassent de quelques kilomètres heure la limitation de vitesse indiquée. Il y a plus de 7 motards sur 10 qui disent franchir les lignes continues pour dépasser.
Ouais, on dit les motards, mais ce sont les deux roues motorisées pour être précis, donc les motos, mais aussi les scooters, n'hésitez pas à témoigner. D'ailleurs, ce baromètre fait écho à l'actualité tragique. On a appris hier que le motard de Valoris, qui avait mortellement fauché une fillette de 7 ans, reste sous contrôle judiciaire. Vous entendrez
la réaction du papa de la petite Camilla ce matin sur RMC. Mais évidemment, on vous attend ce matin pour témoigner, automobilistes, motards. N'hésitez pas à prendre la parole, racontez-nous les comportements que vous voyez sur la route, vous témoignez au 32-16. Est-ce qu'il y a un problème, tiens, notamment chez les jeunes motards, est-ce qu'ils ont conscience du danger lorsqu'on est sur un deux-roues motorisé sur la route? On attend vos témoignages au 32-16.
Et puis il y aura bien sûr tous nos rendez-vous ce matin. On va rendre hommage à Didier Roustan à 6h20 avec Alex Biggerstaff. Manu Conso, rendez-vous juste après 6h. Manu Le Chip qui va nous parler du succès des produits dérivés de Paris 2024. Et puis ça nous concerne avec Amélie Rosic à 5h15 avec un nouveau scandale de maltraitance dans un élevage de porc.
Et sans oublier le pouvoir d'achat, ta solution Conso tout à l'heure, Géraldine, avant 5h30. Mais tout de suite, on va regarder la météo du jour. Et alors là, Géraldine, là c'est la totale, là il y a des nuages, il y a de la pluie, il y a même de la neige au menu.
C'est ça, c'est un vrai temps presque d'hiver. Alors la neige, c'est vraiment à partir de 1500 mètres sur les Alpes, mais c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Les averses, ça va concerner quasiment tout le monde, sauf le pourtour méditerranéen qui va rester sous le soleil, mais avec du vent. À noter un vent violent en Corse, la Corse qui sera quand même sous la pluie. Nette baisse des températures ce matin, 6 degrés là en ce moment du côté d'Orléans, 8 à Lille, 10